Bonsoir à tous. Donc je me présente, je suis enseignant d'histoire à Sainte-Marie-Lyon, donc en classe préparatoire littéraire. Et ce sujet, Église et pouvoir, voilà, est mon sujet de recherche depuis une trentaine d'années. Et particulièrement cette question, là, les forts peuvent-ils évangéliser les faibles? Alors je vais d'abord vous présenter très brièvement, voilà, l'ambition un peu de ce cycle. Pourquoi Église et pouvoir? Parce que apparemment, l'Église, ça sert à tout sauf au pouvoir. Enfin, l'Église n'aime pas le pouvoir. Alors, pour illustrer ce cycle, on entend bien là, oui? Plus fort? Voilà. Je m'habitue au micro. Sur le prospectus, vous avez une image de fourvière que vous devez voir derrière moi. Oui, donc c'est fourvière. Voilà, la silhouette, c'est fourvière. On voit aussi une antenne, ça n'a rien à voir. Donc pourquoi Fourvière? Pas seulement parce que c'est Lyon, mais vous savez que chaque 8 septembre à Fourvière, le maire de Lyon et le conseil municipal participent intégralement à une messe et offrent un écu d'or à l'archevêque, le cardinal Barbarin, pour tenir une promesse, donc celle de la municipalité de Lyon en 1643, qui a promis de faire ce don chaque année à la Sainte Vierge si la ville échappait à la peste. Et souvent, quand le 8 décembre approche, on mélange un petit peu ça. Donc c'est pas tout à fait le 8 décembre. Or, cet acte, voilà, c'est un vestige d'une période qu'on va aborder donc, dans ces six conférences. Une période révolue par la Révolution française, dans certains pays ça continue un petit peu plus longtemps, une période qu'on appelle la chrétienté. Voilà, je voudrais dire un petit mot introductif parce que ça va être le point commun de toutes ces conférences, voilà, l'arrière-plan. Alors, la chrétienté, c'est une situation de la société. Voilà. Ce n'est pas un choix des individus, ce n'est pas une idée, c'est un fait. Et la France n'est plus en chrétienté depuis 200 ans. Et je pense qu'elle ne le sera plus, on n'imagine pas comment ça peut l'être. La chrétienté, donc, c'est la situation où, justement, tout le monde doit être chrétien ou faire semblant d'être chrétien. Ou le bien, c'est ce que dit l'Église. Dans la chrétienté, la question ne se pose pour personne, suis-je chrétien ou pas? Donc, on ne viendrait pas, à l'époque, au catéchisme, demander, est-ce que tu crois vraiment, etc. La seule vraie question, c'est, à cette époque, c'est, comment être vraiment chrétien et non pas un hypocrite? Comment ne pas être un profiteur du christianisme? Parce que le christianisme va de soi. Pensez un peu au pays d'islam. Voilà. Aujourd'hui, dans un pays d'islam, il va de soi qu'on est musulman. Si on essaie de ne pas être musulman, on a de gros ennuis. Et le conflit, c'est entre les gens qui ont différentes idées de l'islam. Donc, aujourd'hui, bon, l'Église est une force de proposition parmi les autres. Mais jusqu'à la Révolution française, plus tard dans d'autres pays, voilà, l'Église est source de la vérité pour tout le monde. Aujourd'hui, elle peine même à formuler à se faire entendre sur quelques points. Dans ce cadre de cette période plutôt de la chrétienté, comme elle est lointaine pour la France, elle est souvent caricaturée. Pour les relations entre l'Église, voilà, et le pouvoir politique. Et dans ce cycle de conférences, on prendra pouvoir plutôt comme le pouvoir politique. Bon, l'État, les puissants, voilà, les riches, mais en gros c'est l'Église et l'État. Et si on passe à une image suivante. D'accord. Voilà, celle-ci. Souvent, il y a une expression qui le caricature. Là, c'est une couverture d'un ouvrage universitaire récent sur la période dite de la Restauration, 1815-1830, suite à la Révolution française. Donc, certains ont voulu revenir à l'Ancien Régime, ou du moins essayer ou fait semblant d'y revenir. Et les partisans de la poursuite de la Révolution, donc les adversaires de l'Ancien Régime, ont dénoncé l'alliance du trône et de l'autel. Plus tard, vous avez Clémenceau qui parle de l'affaire Dreyfus, du sabre et du goupillon. Comme si, de l'Ancien Régime, il y avait deux puissances égales Et puis vous avez des gens comme Michelet qui disent aussi, que, donc au milieu du 19e, que dans cette alliance du trône et de l'autel, c'est l'autel qui est le plus puissant. Et qu'en fait, voilà, je caricature, l'Ancien Régime, c'est le règne de l'Église, Église qui non seulement a du pouvoir, mais qui n'est que pouvoir, et qui trahit le Christ, qui lui est impuissance. Donc c'est le fond de commerce de l'anticléricalisme, et c'est le fond des idées des Français non pratiquants sur l'Église catholique. Et celui qui a popularisé ces thèses, c'est plus que Voltaire, voilà, les pseudo-voltairiens, voilà, ou les néo-voltairiens, voilà, l'Église comme un instrument de pouvoir au nom de Dieu. Ce qu'on dit à peu près sur les islamistes aujourd'hui, qu'ils manipulent l'islam au nom de Dieu. Donc je voulais, avant ces six conférences, expliquer quelque chose qui est un petit peu complexe, que peut-être les conférenciers n'auront pas le temps d'expliquer parce qu'ils traiteront chacun une période et un thème. Quelques idées sur les relations entre ces deux puissances qui régissent la société d'Ancien Régime, l'Église et l'État. Alors l'État, on l'appelait plutôt à l'époque le prince, le roi. Et pour faire simple, on peut dire l'Église et le roi. Alors, l'image suivante nous montre une situation. On est au XIIe siècle, ce sera l'objet d'une des conférences, donc sur la réforme grégorienne, où vous avez agenouillé le personnage, c'est l'empereur, le saint empereur romain germanique, Henri IV, qui s'agenouille en signe de pénitence parce qu'il avoue qu'il a péché et il attend son absolution, mais aussi sa sanction. Il y a une femme donc, qui est une princesse donc, qui a servi un peu d'intermédiaire. Et puis le personnage qui trône, c'est le pape Grégoire VII. Et ça se passe à Canossa. C'était pendant des disputes interminables, qu'on appelait celle du sacerdoce et de l'Empire, pour savoir qui justement, du chef de l'Église, le pape, et du roi des rois, l'empereur, des chefs suprêmes de l'Église et de l'État, était supérieur. Alors cette image a souvent été, justement, ce sera un des thèmes de la conférence, sur la réforme grégorienne, souvent été interprétée comme la toute-puissance de l'Église, l'Église serait supérieure à l'État. En fait, quelques mois après, Henri IV, qui a obtenu le pardon de ses péchés, a pu redevenir empereur, et il réunit un concile qui fait sauter littéralement ce pape, il en nomme un autre, voilà. Donc quelques semaines après, celui qui était à genoux a mis l'autre à genoux, et définitivement. Il en reste quand même dans l'Église une volonté, mais qui a toujours été contrariée, c'est pour ça qu'elle est très forte, dans toute la chrétienté, de théocratie, c'est-à-dire que le pape, et puis dans chaque pays les évêques, se veulent un peu les tuteurs des rois, des princes. Et se réservent, enfin, ont la prétention, évidemment ils n'arrivent pas à le faire, non seulement de les critiquer, mais de les punir. Par exemple, si un roi se remarie sans autorisation, vole de l'argent à l'Église, contredit les désirs du clergé, on peut placer tout son royaume sous interdit, c'est-à-dire que les gens n'ont plus le droit de communier. Et surtout, les mourants n'ont plus le droit de recevoir la confession. Voilà. Donc, on damne tout le monde. Ce qui fait que la population demande au roi, cède. Parce que sans ça, nous serons damnés. Et puis, ça va beaucoup plus loin. Dans certains cas, justement, dans ces querelles entre le pape et l'empereur, le pape ordonne au sujet de renverser l'empereur. C'est-à-dire qu'il appelle à l'insurrection et il dénonce le roi comme un tyran. Bon, mais c'est resté pratiquement tout du long une prétention de l'Église. Et les anticléricaux font semblant de croire que cette prétention de l'Église au pouvoir suprême est devenue une réalité. En fait, y compris comme en Arabie Saoudite aujourd'hui, le pouvoir n'appartient pas aux ecclésiastiques. Dans la pratique, il y a une autre prétention, et c'est l'image suivante, c'est un petit peu plus loin dans le temps, en 1303, on est en Italie, vous avez un personnage qui est prisonnier, qui porte une chasuble avec une croix, c'est un pape, donc Boniface VII, et les soldats qui l'arrêtent donc sont envoyés par le roi de France Philippe le Bel en 1303 à Agnani pour différentes raisons. Voilà. Le roi de France voulait changer de pape, donc il l'arrête, puis il organise un concile et fait élire un autre pape. Vous savez que pendant plusieurs siècles, au total, il y a eu plusieurs papes. Donc, c'est assez... C'est, il y a presque autant de temps avec deux ou trois papes qu'avec un seul pape donc, au Moyen-Âge, justement, parce qu'il y a cette querelle entre Église et État. Donc, évidemment, les rois ne supportent pas de recevoir des leçons de l'Église. Comme la vérité vient de l'Église, pour ne pas être embêté, voire même pour se faire davantage obéir de ses sujets, la solution pour les rois, c'est de dominer l'Église et de faire parler à l'Église le langage du roi. Vous connaissez en Angleterre le cas extrême de Thomas Becket, qui a été tué dans la cathédrale. C'était l'ancien ami du roi Henri II d'Angleterre. Henri II d'Angleterre l'a nommé à la tête de l'Église d'Angleterre, pensant qu'il se ferait un fidèle serviteur. Et puis Thomas Becket est resté fidèle à la parole du Christ, donc a critiqué les fautes du roi, et des amis du roi ont tué Becket, qui est devenu saint. Alors si la tentation de l'Église d'avoir tout le pouvoir, c'est la théocratie, ça a échoué. Ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est ce qu'on appelle le césaropapisme. En France, c'est appelé le gallicanisme. C'est-à-dire que l'État dirige l'Église. La pratique, elle se trouve entre les deux. Vous avez une tension, non pas une alliance entre le trône et l'autel, mais une tension, un conflit permanent, souvent très violent, entre ces deux pouvoirs qui sont condamnés à s'entendre, mais qui sont rivaux, qui n'ont fondamentalement pas les mêmes objectifs. Que veut un roi? Gagner une guerre, conquérir, vaincre. Que veut l'Église? On s'approche de notre sujet. Convertir, sauver. C'est pas tout à fait, c'est même pas du tout la même chose. C'est là où je veux en venir, voilà pourquoi ce cycle. D'abord, les chrétiens n'aiment pas le pouvoir, hier comme aujourd'hui, y compris les papes. Mais l'Église n'est pas une secte, surtout dans une époque de chrétienté, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'organiser à côté de la société. Et si l'Église veut sauver les âmes, elle doit influencer la société, même plus que l'influencer. Et on pourra en discuter après, mais et puis dans chacune des séances, on ne se privera pas de faire des débats aussi en élargissant sur l'actualité. L'Église ne peut pas oublier le pouvoir, parce que de toute façon, le pouvoir ne l'oubliera pas, hein, ne serait-ce que pour préserver sa liberté. L'Église a affaire avec le pouvoir. Il y a une contradiction très forte donc, pendant tous ces siècles entre les hommes d'Église. Alors j'hésite à les appeler hommes de foi parce que, en tant qu'historien, on n'a pas à avoir de convictions religieuses. Mais les hommes qui, visiblement, sont motivés par ce souci du salut. Parce que pendant toute notre période, qu'est-ce que christianiser? C'est prêcher le salut, sauver les âmes de l'enfer. Très clair. Aujourd'hui, c'est un petit peu changé. Donc ces hommes qui ont cette priorité spirituelle se sont opposés de façon à la fois courageuse et intelligente et politique, pas politicienne, aux détenteurs du pouvoir, mais aussi au reste de la population, pour trouver des solutions pratiques. Alors aujourd'hui, on a du mal à l'imaginer parce que nous, catholiques, nous sommes minoritaires, nous n'avons pas le pouvoir, même en tant que citoyens. Donc on se préoccupe peu de ces questions. Alors il y aura 6 conférences sur ces thèmes, voilà, comment dans un régime de chrétienté ne pas devenir esclave du pouvoir politique, finalement esclave des puissants, mais sauver tout le monde. C'est comme un régime de chrétienté, c'est un régime de dictature, hein, où seuls les chefs, hein, de l'État et de l'Église ont droit à la parole, hein, les autres doivent se taire. Comment rester fidèle à l'Évangile? Alors on le verra non pas à travers un exposé systématique d'histoire de l'Église, parce que là ça serait beaucoup trop long, on resterait un peu à la surface, mais on va essayer de voir quelques cas de figure. À chaque fois ce sera un intervenant différent, spécialisé sur ce sujet. Un historien de métier, j'insiste, Donc peu importe les opinions de l'orateur, moi je suis catholique, croyant, pratiquant, mais je pourrais dire la même chose si je suis, si je suis athée. Donc l'histoire n'est pas... c'est l'histoire de la religion, mais ce n'est pas l'histoire religieuse. Par exemple, la prochaine conférence, ce sera, on ne va pas suivre un ordre chronologique, c'est plutôt des cas de figure, là, des situations de l'Église vis-à-vis du pouvoir. La prochaine conférence, ce sera un petit peu l'inverse, c'est vers 1849, le pape en Italie s'accroche à son État, l'État pontifical. Ça a souvent été présenté comme quelque chose d'archaïque, voilà, le pape est un traître à l'Évangile, il s'accroche à un État. On se posera la question, pourquoi l'Église a-t-elle vraiment, enfin, l'Église a-t-elle vraiment besoin d'un État ? Vous savez que la question se pose toujours aujourd'hui. Hein, si le pape ne disposait pas du Vatican, aurait-il sa liberté de parole ? Si le pape était à Paris, pourrait-il s'exprimer ? Et la réponse est assez évidente. Il ne pourrait pas s'exprimer. Voilà, et ainsi de suite. Donc il y aura plusieurs cas de figure. C'est indiqué à chaque fois dans la conférence. Voilà, j'ai essayé de ne pas être trop long. Donc là, on a commencé à 5, donc j'ai pris un quart d'heure pour cette présentation. Chaque conférence sera complètement indépendante. Là, j'ai donné ces idées générales. On les remettra sur le site du Collège supérieur. Si vous voulez faire venir des amis, donc qu'ils aient ces éléments, je pense qu'on mettra aussi en ligne le texte de la conférence. Donc faites venir du monde, voilà, pour l'un ou l'autre sujet. Ça va durer ma conférence va durer 3 quarts d'heure, les autres 1 heure. On aura une demi-heure de discussion. Et on ne s'interdira pas dans la discussion, voilà, d'évoquer l'actualité ou d'autres périodes historiques. Le but n'est pas forcément de discuter uniquement sur la période en question, parce que là, le conférencier, c'est quasiment le seul à pouvoir en discuter. Le public est un petit peu désarmé. Donc c'est 6 cas de figure, voilà, 6 situations de l'Église face au pouvoir. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Église est au pouvoir, l'Église a une parcelle du pouvoir, mais l'Église n'est pas le pouvoir. Et ce n'est pas elle qui a le plus de pouvoir, contrairement à cette caricature de l'Ancien Régime. L'Ancien Régime n'est pas une théocratie, même si le clergé l'aurait souhaité, évidemment, mais ça n'est pas le cas. C'est ceux qui ont l'épée, voilà, qui sont plus forts. Si y a le trône et l'autel, le trône est beaucoup plus fort que l'autel. Vous le savez, donc la force, elle est d'abord physique. Voilà. Alors, j'en viens à mon sujet. Stop. Antérieure. Remonte. Ouais, ici. Non. Bon. Celle-ci, voilà. Celle-ci, voilà. Ouais. Donc, je vous ai fait passer 2 cartes. On va commencer par les cartes pour situer le sujet. Parce que. Donc le titre, c'est l'évangélisation de l'Amérique du Sud. Je vais tout de suite préciser, comme toujours, c'est plus petit que ce qu'on annonçait au départ, de l'Amérique espagnole, voilà, à l'époque coloniale, c'est-à-dire du 16e au 18e. Et quelques mots à l'aide de cette carte pour vous situer. Situer le contexte politique. C'est le contexte donc d'une colonisation, c'est-à-dire que le royaume de Castille soumet des territoires dans le continent américain. On va suivre un petit peu la flèche de la carte. J'ai mis une grosse flèche noire qui part d'Europe, qui arrive dans cet archipel des Antilles. Vous reconnaissez l'île de Cuba. À l'est de Cuba, c'est actuellement Haïti, Saint-Domingue, qui à l'époque s'appelait Hispaniola. Et pendant une vingtaine d'années, de 1492, donc c'est Christophe Colomb qui commence à 1518, voilà, fin 15e, début 16e, les Espagnols conquièrent les Antilles. Alors je l'ai mis en noir parce que c'est la conquête catastrophique. Il y a eu effectivement, et je vous l'ai indiqué dans la chronologie, un génocide, non pas volontaire, mais un génocide involontaire, c'est que la population indienne des Antilles a presque complètement disparu du fait des excès de la conquête. Évidemment, si elle a disparu, ils n'ont pas pu être évangélisés. Donc là, ma question, les vainqueurs peuvent-ils évangéliser les vaincus? Si je m'étais arrêté en 1518, ça aurait été vite réglé, puisqu'en plus, ils les ont fait mourir dans d'atroces souffrances sans les avoir baptisés, communiés, donc ils les ont expédiés en enfer. Et ça, pratiquement tout le monde était d'accord que ça a été une catastrophe. Du fait de cette catastrophe initiale, la conquête, cette fois-ci non plus des Antilles, donc des îles, mais du continent, a pris des formes un peu différentes, moins violentes, et c'est pour ça qu'il y a toujours des Indiens en Amérique. Vous avez une flèche qui part des Antilles vers Mexico, et j'ai assuré autour de Mexico la zone qui, avant la conquête espagnole, était contrôlée par l'empereur de Mexico, qu'on appelle l'Empire aztèque. Et j'ai mis les dates, donc de 1519 à 1524, un homme pratiquement seul avec 400 autres donc conquiert cet empire peuplé peut-être de 10, 15, 20 millions d'habitants. Le propos n'est pas d'expliquer ici comment ils ont réussi la conquête, ça c'est un autre sujet. Puis il y a une autre flèche qui part d'Hispaniola, donc des Antilles vers le sud, qui franchit l'isthme de Panama, donc entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Vous voyez, cette flèche débarque au Pérou. J'ai écrit Cajamarca, parce que je vous montrerai une image sur cette scène. Puis Cusco, C-U-Z-C-O. Cusco, qui était la capitale du deuxième empire encore plus vaste, en Amérique du Sud cette fois-ci, donc l'empire Inca. Et c'est un autre conquérant, avec un millier d'hommes cette fois-ci, Francisco Pizarro, qui en quelques années, voilà, dans les années 1530, conquiert cet empire. Donc vous voyez que ça va très vite pour l'essentiel, si on laisse de côté les Antilles. Voilà, en 20 ans, tout l'ouest de l'Amérique est conquis. Après, ça se ralentit, parce que vous avez une série de peuples indiens. Au nord, les Chichimecs. En Amazonie, ce que les Espagnols ont appelé Jivaros, en fait, c'est un nom pour des dizaines de peuples différents. Et puis au sud, dans la région de l'actuel Paraguay, les Guaranis, il y en a bien d'autres, des peuples qui vivaient non pas en empire mais sous forme de tribus, des peuples nomades, guerriers, qui ont été très difficiles à soumettre. Donc, contrairement à la légende, la conquête espagnole a été difficile, même dans les Andes, et elle a échoué dans la majorité du continent. Alors à l'époque, les Portugais, jusqu'en 1600, ne sont quasiment pas présents. Et ce qui reste en blanc, c'est les zones où la conquête a échoué. Donc ça, on l'oublie beaucoup. Alors la carte de droite, j'y reviendrai dans la dernière partie de la conférence, c'est en 1600, qu'est-ce que les Espagnols ont fait de leur conquête? Une carte un peu plus compliquée qui sort d'un atlas historique, et j'utiliserai certains lieux à l'occasion, mais les moins importantes. Je vous ai mis aussi une liste chronologique qui vous évitera peut-être soit de prendre des notes, qui vous permettra de vérifier vos notes, et j'espère qu'on la comprendra mieux à l'issue de la conférence. Et je suivrai à peu près ce plan. Donc on va parler de cet espace, voilà, du 16e au 18e siècle. Donc en gros Mexique-Pérou actuel, du 16e au 18e. Cette région qu'on appelle les Andes, A-N-D-E-S. Là où il y a encore des dizaines de millions de descendants d'Indiens. Justement les descendants de ces vaincus. Bon, j'ai défini mon espace, mon époque. J'ai mis évangélisation de l'Amérique du Sud. Les historiens, ils prennent les mots dans le sens de l'époque. Voilà. Qu'est-ce que l'évangélisation à l'époque? C'est sauver les âmes. C'est apporter le salut. C'est que les gens meurent, mais meurent en ayant accepté la bonne nouvelle. Et meurent en allant au paradis et pas en enfer. Et toute la vie est ordonnée autour de la bonne mort. Il faut vraiment imaginer ça, que l'au-delà compte plus que l'ici-bas, pour n'importe qui, même pour les pillards, qui à la fin de leur vie de pillage, voilà, essaye pendant plusieurs années très sincèrement d'expier. Les gens croient à l'enfer, croient au paradis. Et l'essentiel, c'est d'aller au paradis. Même si ça n'empêche pas de profiter de la vie, si on peut faire les deux, tant mieux. Mais à la fin de sa vie, voilà, c'est là où la vie compte. Il faut une bonne mort. Alors, mon sous-titre, c'est Les vainqueurs. Les vainqueurs, vous avez compris que ce sont les Espagnols, soit les conquérants au début du XVIe siècle, soit XVIIe, XVIIIe, évidemment les descendants des conquérants. Donc on va appeler Espagnols les représentants de la métropole et les colons, en gros les Européens, qui sont les vainqueurs de la guerre, puis les dominants, puisque la paix est celle des vainqueurs. Les peuples indigènes ont été vaincus les uns après les autres. Puis on va appeler vaincus les peuples indigènes qui étaient indépendants au moment de la conquête, qui ont résisté, qui ont été vaincus, puis leurs descendants surtout, y compris au XVIIIe. Et plus le temps passe, évidemment, plus la question est intéressante. La question, donc, c'est vraiment, est-ce que celui qui dispose de la force, qui a fait usage de la force, peut évangéliser celui qui a été son adversaire et qui l'a vaincu ? Vous remarquerez d'ailleurs que c'est une question qu'on peut se poser, y compris dans la vie quotidienne. Quand on est obligé de... qu'on doit vaincre quelqu'un, puis ensuite le convaincre, vaincre puis convaincre. Ce n'est pas évident. Les parents avec les enfants, les éducateurs avec les éduqués. Alors plus précisément, voilà, l'Église est inscrite dans un rapport de force coloniale, qu'on peut vraiment résumer en un mot, la domination. L'Église est du côté des dominants, qu'elle le veuille ou non, elle est venue avec les Espagnols. Du point de vue des Indiens, il y a des Espagnols, dont des Espagnols ecclésiastiques. Il n'y a pas l'Église et les colons. Il y a des colons laïcs, des colons ecclésiastiques. Donc, inscrite dans ce rapport de force, voilà, peut-on imaginer des solutions pour évangéliser quand même ? Ce n'est pas évident du tout. Je vais essayer de vous montrer justement que les hommes d'Église espagnols, dont le plus célèbre est Bartolomé Las Casas, j'ai écrit son nom plusieurs fois dans la chronologie, mais c'est un parmi bien d'autres. On réfléchit très courageusement à ces questions, sans hypocrisie. Nous sommes parmi les vainqueurs. Pouvons-nous évangéliser les vaincus ? Et on verra que même aussi ceux qui peuvent nous paraître comme des canailles, Cortés, Pissarro, se sont quand même posé la question. Alors c'est pour ça que j'ai mis en inauguration cette image que je vais vous expliquer. Alors personnellement, j'ai mené des recherches sur les relations entre le clergé des paroisses et les Indiens à la fin du XVIIIe, dans le nord du Pérou. Et cette image provient d'un des évêques du nord du Pérou à la fin du XVIIIe, quelqu'un d'assez extraordinaire, Martinez Campagnon. Comme tous les évêques, il a été nommé par le roi, et il envoie au roi un rapport illustré sur la vie de son diocèse de Trujillo. Il y a plus de 900 images, il y a le numéro de l'image, il y a des textes, il y a des statistiques. Et là, à la question « Peut-on évangéliser les vaincus ?», cette image répond « Oui, on peut, la preuve, je l'ai fait. » Vous avez un curé en noir, agenouillé devant un lit. Alors ce curé, par définition, depuis 3 siècles, il ne peut être qu'espagnol, étant donné que les Indiens étaient interdits de sacerdoce. Sur le lit, il y a un Indien, alors on le sait parce que les Indiens avaient les cheveux longs, et c'était obligatoire. Donc il y avait un costume indien, un costume espagnol, un costume métis, un costume noir. Il était interdit à un Indien de s'habiller comme un Espagnol, donc c'est codé. On voit donc un Indien en train de mourir, la femme ou quelqu'un de la famille qui l'assiste, et cette image est un bulletin de victoire. Oui, nous avons évangélisé les Indiens parce que l'essentiel, c'est que cet Indien qui meurt tient volontairement son crucifix. Rappelez-vous la phrase « Que je ne sois jamais séparé de toi ». C'est-à-dire qu'il part dans la mort en croyant dans la résurrection. Donc il meurt en chrétien. Donc ça veut dire que l'évêque a bien fait travailler ses curés et que les curés sauvent, que les Indiens font partie de la chrétienté. Alors, si c'était que ça, il n'y aurait pas besoin de faire une conférence. Moi, personnellement, j'ai travaillé non pas sur cette image, qui est en fait une image sur les aspects positifs, mais dans les archives de l'évêque, justement, où s'étaient accumulées les plaintes des Indiens à l'évêque, mais aussi au gouverneur, au roi, contre les abus de leurs prêtres. Et le cas le plus fréquent était le suivant. Les Indiens disent, nous n'allons pas à la messe, parce que si nous allons à la messe, le curé nous force à travailler, nous taxe, nous pressure, nous maltraite. Nous sommes des bons chrétiens, mais nous risquons de redevenir des païens si le curé continue. Le curé, évidemment, se défend en envoyant un rapport à l'évêque. Ne les écoutez pas, ce sont de sales Indiens, c'est vraiment ces mots. Des brutes, des hypocrites. Ils ne vont pas à la messe parce qu'ils vont dans la montagne célébrer leur culte païen. Demandez au gouverneur d'envoyer des soldats pour les ramener à l'ordre. Ils ne sont pas assez vaincus. Remarquez que c'est l'explication inverse. On n'arrive pas à les évangéliser parce qu'on ne les a pas assez matés. Donc la vérité qu'on va essayer de cerner est un peu entre ces deux visions. Voilà. Est-ce que effectivement les vainqueurs ont pu évangéliser les vaincus ou finalement est-ce que les vainqueurs n'arrivent pas du tout à évangéliser les vaincus? Bon, vous savez que les rapports des curés sur les paroissiens sont toujours désespérés. Donc, c'est rarement positif. Mais là, il y a vraiment ce que j'ai lu dans ces centaines de rapports, c'est ce stéréotype que l'Indien finalement est têtu, résiste. On l'a vaincu physiquement, mais il s'accroche à ses superstitions. Et puis, beaucoup plus gravement, c'est ce que je vais essayer d'expliquer, l'Indien est un homme, certes, mais un homme inférieur. Et finalement, on n'en fera jamais un bon chrétien. Donc surtout, ne pas ordonner des Indiens, ne pas leur faire confiance, et il faut la trique. Alors, je vais le traiter en trois temps, et je vais accélérer en suivant un plan chronologique. Poser cette question, les vainqueurs peuvent-ils évangéliser les vaincus pendant la conquête elle-même ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire la guerre et évangéliser en même temps. Il y aura une conférence qui traitera des croisades. On verra que la croisade, ce n'est pas évangéliser. C'est quand même cette question, voilà. L'Église et le pouvoir en temps de guerre. Ça nous mènera donc de 1492, l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, à 1537, au moment où la conquête s'arrête, parce que les meilleures régions ont été occupées. Et puis une deuxième période qui est peut-être la plus intéressante, au lendemain de la conquête, les vainqueurs se demandent qu'est-ce que l'on fait de notre victoire ? N'a-t-on pas abusé de notre force ? Et là, bon, je suis d'origine espagnole, mais quand même, les penseurs ecclésiastiques espagnols du XVIe siècle ont eu une audace extraordinaire de remettre en cause leur propre victoire. Combien de personnes font cela ? Et un des artisans voilà, de cette autocritique des vainqueurs eux-mêmes, c'est Bartolomé de Las Casas, qui sera notre grand homme de ce soir. Je vais essayer de replacer dans son contexte. Son procès de béatification là, est en cours depuis 2002. Hélas, voilà. Enfin, hélas, ça dépend comment on voit les choses. Bartolomé de Las Casas meurt en 1566. En 1572, le roi Philippe II d'Espagne interdit de soutenir ses idées. Le débat est fermé et tout au long du XVIIe, XVIIIe, la solution qui s'impose, c'est celle d'un ordre colonial où les Indiens seront des sous-hommes, donc des sous-chrétiens. Et l'Amérique latine actuelle est en train de sortir de cette situation. Donc, début 16e, milieu 16e, et puis fin 16e, 17e, 18e. Donc, premier temps, donc, comment peut-on évangéliser en conquérant ? Deux idées qui nous paraissent un peu contradictoires. Donc, ou dit autrement, voilà, comment peut s'opérer une conquête spirituelle ? Donc, dans la conquête politique. Alors, je le verrai en trois temps. D'abord en droit. Oui, on a le droit, à l'époque, de vaincre pour évangéliser. Ensuite, en fait, les observateurs critiques, notamment des dominicains, constatent qu'en fait, on fait l'inverse. Hein, et que la conquête prive en fait de la possibilité de conversion. On traite tellement mal les Indiens, pour parler simplement, qu'ils refusent la foi chrétienne. Avec raison, puisque pourquoi adopter la foi de vos bourreaux ? Pour, dans un troisième moment, nuancer quand même cette opposition, en m'intéressant non plus aux Indiens ou aux clergés, mais au troisième groupe, les conquistadors. Alors non pas les défendre, les réhabiliter, ils n'en ont pas besoin, ce serait un peu ridicule, mais montrer que même les conquistadors étaient préoccupés. Ce sont eux les auteurs des crimes, mais ils étaient préoccupés. Et eux-mêmes cultivaient une mauvaise conscience coloniale. Je trouve que c'est assez extraordinaire chez les Espagnols de cette époque, qui ont quand même conquis un continent en risquant leur peau, en se demandant en permanence s'ils avaient le droit et s'ils avaient outrepassé leurs droits en le regrettant. Je ne pense pas que les grandes puissances actuelles aient de tels scrupules de conscience. Alors d'abord, premier temps, on peut évangéliser en conquérant en droit. On a le droit de le faire. Alors il y a trois textes qui sont un peu des jalons, je ne vais pas suivre un ordre trop événementiel. En 1493, le pape publie un texte pour toute l'Église, donc la bulle Inter Cetera, où, pour faire simple, il donne l'Amérique à l'Espagne, un petit bout au Portugal, sous condition d'évangéliser. C'est-à-dire, vous avez le droit de conquérir pour évangéliser. Alors, vous pouvez retourner la formule, si vous n'évangélisez pas, vous n'avez plus le droit de conquérir. Donc, c'est l'épée, gros, au nom de la croix. Alors, c'est une position acceptée par l'Église depuis Augustin, depuis la fin du IVe. La violence est légitime, alors non pas pour convertir les gens de force, donc là, ça n'a jamais été admis, mais pour empêcher l'idolâtrie, pour imposer le monopole de la parole de l'Église. Donc censurer les autres religions et permettre la parole de la prédication de la vérité. Et là, si besoin, on a le droit de tuer les gens qui s'opposeraient, par exemple, à la prédication. Donc, notamment un chef indigène qui refuserait de laisser entrer des prédicateurs, on peut le tuer. Bon, ça nous choque, mais c'est comme ça, c'est ce que l'Église a admis très longtemps. Donc ça, c'est l'aspect essentiel. Le pape a donné le pouvoir sur l'Amérique au roi de Castille en échange de l'évangélisation. Parce que pour le pape, ce qui intéressait, ce n'était pas le roi de Castille, c'était l'évangélisation. Alors, ça a une conséquence pratique. En Amérique, le roi d'Espagne nomme tous les ecclésiastiques. Évêques, abbés. Alors, pas directement les plus petits. Tandis qu'en Europe, les évêques sont nommés par accord entre le pape et le roi. Donc en gros, le clergé en Amérique est étroitement soumis au roi. C'est une constante. On appelle ça le patronage royal. Le deuxième jalon un peu juridique, c'est en 1512, un texte dont les Français se moquent beaucoup, qu'on appelle le requerimento. Alors vous le voyez dans la chronologie, je voulais écrit loi royale de Burgos, c'est une série de lois qui régissent la conquête, liant évangélisation au requerimento. Requerimento, ça veut dire ultimatum. C'est un texte qu'un groupe de conquérants devait lire lorsqu'il pénétrait dans un territoire indien. On devait le lire au chef. Alors ce texte, c'était l'ultimatum suivant. Nous vous apprenons que le pape, au nom de Jésus, dispose du pouvoir suprême sur la terre. Qu'il a confié votre territoire au roi d'Espagne, donc que le roi d'Espagne est votre suzerain. Nous vous demandons de devenir votre vassal, un peu comme un comte vis-à-vis du roi de France, et de laisser entrer les prédicateurs. Si vous acceptez, il n'y aura pas de guerre. Vous resterez comme un État autonome à l'intérieur de l'Empire espagnol. Est-ce que c'est clair ? Par contre, si vous refusez, ce sera la guerre. Vous méritez la mort, la destruction. Et on vous évangélisera de force. Alors évidemment, sur le fond, ce texte n'est pas du tout idiot. Dans la pratique, selon... Oui, parce que finalement, c'est ce qu'on fait avec Daesh, enfin, avec l'Afghanistan des talibans. Mais dans la pratique, les Espagnols ont une très forte culture juridique un peu formaliste. Si on voulait s'allier avec... Si vous êtes Cortés, vous alliez avec un chef indien contre un autre chef, vous lisez... Ce texte était lu en latin, en plus. Donc vous lisez à toute vitesse le texte en latin, vous dites, bon, le chef est d'accord, on ne lui fait pas la guerre. Si on va passer une autre image. Si vous êtes cette fois-ci Pissarro, donc le conquérant du Pérou, alors cette image, la scène se situe en 1532 à Cajamarca. Elle est extraite de la chronique d'un aristocrate indien qui écrit vers 1600, donc 70 ans après la scène. Cet aristocrate indien est devenu chrétien, il écrit en espagnol. Et il raconte dans sa chronique donc, l'histoire du passé inca, de la conquête, et puis ça va jusqu'à l'actualité. Alors vous avez c'est la première rencontre entre le conquérant de l'Empire, qui ne l'a pas encore conquis, et l'empereur, donc Atahualpa. Donc celui qui est sur le siège, c'est l'empereur du Pérou, donc inca Atahualpa. À ses pieds, il y a deux personnes. Donc celui qui est en armes, donc c'est Francisco Pizarro. Et en face, vous avez un franciscain qui tient une Bible. C'est son chapelain, donc le chapelain d'expédition, Valverde. Ils sont en train de lui lire le requerimiento. Alors, comme Pissarro avait besoin de se débarrasser de l'empereur, en gros, il y avait deux empereurs, il voulait s'appuyer contre l'autre, le frère Valverde a tendu la Bible à l'empereur, lui disant, c'est notre livre sacré. Atahualpa s'attendait à ce que la Bible ait des pouvoirs magiques. Oh, il a feuilleté, il a dit rien dans l'intérieur, il a jeté la Bible. Donc ça a été interprété par les Espagnols comme un sacrilège. Et en fait, autour de la place, donc, il y avait des artilleurs espagnols. Et c'était un guet-apens, donc ça a déclenché la guerre. Donc quelques minutes après, c'était la guerre. Ils ont capturé l'empereur, ils l'ont rançonné, puis ils l'ont exécuté. Et cet épisode du guet-apens, voilà, de la fourberie espagnole, était célébré dans la mémoire folklorique indienne au Pérou jusqu'à nos jours. Donc la mort d'Atahualpa. Donc on peut conquérir au nom de la... Je vais accélérer. Au nom de l'évangélisation parce que le pape l'autorise, parce qu'on laisse en théorie le choix au peuple entre la conquête pacifique ou la conquête violente. Ce n'est pas de notre faute s'ils choisissent la résistance, alors qu'en fait, assez systématiquement, les Espagnols n'ont pas laissé le choix. Et puis, comme il y a d'autres puissances, notamment des puissances françaises qui lorgnent sur l'Amérique, en 1532, un théologien espagnol, Vitoria, V-I-T-O-R-I-A, a légitimé autrement la conquête. On peut conquérir non seulement au nom de l'évangélisation, mais au nom de l'argument que j'appellerais humanitaire. Ce n'est pas un terme de l'époque. Vous avez entendu parler de l'ingérence humanitaire. Il fait remarquer, Vitoria, qui n'est jamais allé en Espagne, mais en lisant les chroniques, que dans l'Empire aztèque, les prisonniers de guerre étaient sacrifiés dans d'abominables souffrances, donc au cœur de la capitale, le Mexico, et que ces sacrifices humains ordonnés par l'empereur étaient le symbole de la barbarie. Et donc on avait le droit de soumettre ces peuples pour leur bien, pour les civiliser. Vous remarquez que c'est le grand argument de la colonisation du 19e siècle, et c'est l'argument des interventions de l'ONU. C'est l'argument de la France aujourd'hui quand elle fait la guerre. Donc ça n'est pas si bizarre. C'était pour éviter notamment que les États protestants, qui ne reconnaissaient pas évidemment l'autorité du pape, délégitiment la conquête espagnole. Alors ces arguments qui n'évoquent pas la religion, c'est ce qu'on appelle non pas des arguments de droit divin, mais de droit naturel, même s'il n'y avait pas de religion. Alors ça tombe bien, puisque le christianisme, lui aussi, enfin lui, ne demande pas de sacrifice humain, matériel. Et l'Eucharistie doit remplacer ces sacrifices humains. Alors, en droit, si les Espagnols étaient une bande d'hypocrites, comme c'est souvent présenté dans la propagande française de l'époque, parce qu'on était évidemment envieux de leur conquête, il n'y aurait pas eu de problème. En pratique, les Espagnols sont très conscients des crimes, c'est un deuxième temps, donc des crimes de la conquête, qui empêchent concrètement d'évangéliser les Indiens. Un SS qui prêcherait la bonne parole nazi, voilà, à des prisonniers dans un camp, c'est invraisemblable. J'exagère un peu, mais c'est un peu de cet ordre de grandeur. Je vous redis, il n'y avait pas de volonté en gros d'extermination, mais grossièrement, voilà, on mettait au travail forcé les Indiens pour leur faire produire des minerais précieux, et on les tuait plus ou moins au travail. Si on ne les tuait pas, bon, c'était l'exploitation la plus brutale. Le goût de l'or, voilà, c'est ça que dénonçait le clergé, avait remplacé la volonté de propager la croix. Alors celui qui a secoué les consciences, c'est un grand moment de l'histoire, c'est en 1511, on est à Hispaniola, il y a une douzaine de dominicains qui sont arrivés après les conquérants, donc il y a un certain délai, on est au début du carême. Il n'y a pas beaucoup d'Espagnols en Amérique, il y en a peut-être 1000 ou 2000, ils sont quasiment tous rassemblés dans pratiquement la seule église d'Amérique. Et ils sont tétanisés parce qu'au début du carême, au lieu de leur dire des choses gentillettes, le prédicateur Montesinos leur dit « Si vous ne faites rien actuellement, vous allez tous en enfer. Parce que vous avez traité les Indiens comme des bêtes. Non seulement vous les avez empêchés de devenir chrétiens, vous n'avez pas le droit d'être là, mais en plus, vu vos crimes, vous allez en enfer. » Alors, les chroniques disent que l'assemblée était stupéfaite. Parce qu'ils y croyaient, évidemment, qu'ils allaient en enfer. Ils étaient très gênés, puisque, qu'est-ce qu'on fait là? Ils ne pouvaient pas repartir. Hein. Ils avaient tout investi. Un des colons, exploitant des Indiens, assistait à ce sermon. Et c'est Las Casas. Las Casas est venu en Amérique comme colon. Il a acheté une propriété, en gros, avec des Indiens qui travaillaient pour lui. En 1510, il est devenu le premier prêtre séculier, c'est-à-dire le premier prêtre de paroisse ordonné en Amérique, pour des raisons d'économie, parce que chaque grande propriété, c'était la loi, devait disposer d'un prêtre pour évangéliser ces Indiens. Mais donc, en 1515, lorsqu'il écoute ce sermon, c'est quasiment la figure de l'hypocrite. Un propriétaire d'Indien qui est curé parce qu'il faut bien être curé, moi. Il est secoué donc par cette apostrophe de Montesinos. Alors peut-être qu'il y a de l'exagération géographique dans le récit. Et en 1515, donc il renonce à sa propriété et il devient, voilà, jusqu'à sa mort en 1566. Et c'est son titre qui se donne à lui-même, l'avocat des Indiens. Et on va le suivre à partir de maintenant, voilà, jusqu'en 1566. Alors sur le coup, évidemment, une fois que l'Assemblée s'est ressaisie, c'est un peu comme dans l'Évangile, ils se saisissent des Dominicains, ils les mettent dans un bateau, avec une lettre au roi d'Espagne, réglez-leur leur compte. Mais ça déclenche une polémique en Espagne, voilà, qui ne s'arrête pas. Alors juste un point sur ces conquérants un peu endurcis. C'est pas parce qu'ils n'ont pas obéi au doigt et à l'œil, voilà, au clergé qui les rappelait leur devoir chrétien, que c'était que des brutes épaisses. Vous savez que, par exemple, que Christophe Colomb, mais les autres aussi, Cortés et même Pissarro, insérait la conquête de l'Amérique dans une vision mondiale qui était celle de la croisade. La conquête de l'Amérique n'était qu'une étape pour la reconquête de Jérusalem. Et à la limite, les souffrances qu'ils infligeaient aux Indiens étaient relativisées. si finalement l'Amérique pouvait donner les moyens de conquérir l'Asie. Et puis, je voulais dire aussi, surtout une deuxième chose, même s'ils étaient conscients de l'horreur de ce qu'ils faisaient, et que cet argument, bon, dans une perspective mondiale, même si on maltraite les Indiens, mais qu'on arrive à battre les musulmans, ça en vaut la peine. Même s'ils étaient conscients du mal qu'ils faisaient, ils étaient coincés. Donc, je vais vous expliquer un peu comment était organisée la conquête. Le roi d'Espagne ne voulait pas dépenser un sou. Donc, il laissait à un ambitieux une province à conquérir. Cet ambitieux n'avait pas un sou non plus, donc il empruntait en Italie, en Allemagne, à des banquiers. Donc, vous connaissez le roman de Céline Lamour à crédit, mais la conquête d'Amérique espagnole, c'est une conquête à crédit. Donc vous partez à la conquête avec d'énormes dettes à rembourser, vous payez vos soldats à crédit, vous achetez les armes à crédit, et votre conquête doit rapporter de l'or, de l'argent, pour rembourser les banquiers. Et donc soit vous exploitez durement la population, soit vous êtes éliminé par les rivaux, ou encore plus durement, vous n'avez plus de crédit, donc l'expédition s'arrête. Voilà, imaginez une série d'entreprises de conquête. La conquête de l'Amérique fut une affaire financée commercialement. Elle devait être, disons, auto-financée sur le dos, évidemment, sur le dos des Indiens. Alors on le sait parce que beaucoup de conquérants, donc, une fois fortune faite, la mort arrivant, ont restitué des biens aux Espagnols, aux Indiens, ont fait des donations pour expier leurs fautes. C'est-à-dire qu'ils ont admis eux-mêmes donc leur crime. C'est ce que les nobles faisaient en Europe aussi. Bon, globalement, donc, l'Église n'a pas eu beaucoup d'impact sur la conquête. Elle a seulement donné mauvaise conscience aux conquérants. Alors, c'est pour ça que dans un deuxième temps, après cette conquête, donc, dans les trois premières décennies du XVIe siècle, on arrive à une deuxième grande période qui va grosso modo des années 1540 aux années 1550, au milieu du siècle, qui est la plus passionnante. C'est la période des grands débats. Sur qu'a-t-on fait ? Notamment, qu'avez-vous fait de votre frère ? Puisqu'il n'a jamais été question de nier l'humanité des Indiens et le but qui était, enfin la finalité qui était de convertir les Indiens. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu ces. Les années 1530, 1540, 1550, de grands débats entre Espagnols ? Sur cette question, peut-on évangéliser les vaincus ? A-t-on bien fait de les conquérir ? Comment les a-t-on conquis ? Il y a d'abord une explication politique. Et puis ensuite, je vous exposerai donc les débats théologiques, notamment la controverse de Valladolid en 1550 entre Las Casas, donc défenseur des Indiens, et un autre qu'on présente souvent comme un affreux complice des colons, mais dont les thèses sont assez légitimes aussi, Sepúlveda. Alors d'abord, l'explication politique, un peu au ras de terre, mais qui est quand même indispensable. Je vous ai dit que l'Église dépend du roi en Amérique plus qu'en Europe. Je vous ai dit aussi que la conquête n'avait pas été financée par le roi, mais par les conquérants. Donc que s'est-il passé au lendemain de la conquête ? Les enfants des conquérants se sont lancés dans d'interminables guerres civiles pour se partager en gros les Indiens, donc la production de l'or. Et notamment au Pérou, entre 1537 et 1540, il y a eu plus de destruction, de morts d'Indiens dans le cadre de guerres civiles entre conquérants que lors de la conquête. Alors c'était perdant pour tout le monde, et notamment pour le roi, qui ne recevait plus rien. Et au Mexique, ça n'allait pas si loin, mais les enfants de Cortés aussi montraient des signes d'indépendance. Donc tout simplement, la couronne était en train de perdre l'Amérique. Donc il y a eu une alliance entre le roi d'Espagne, Charles Quint, et les réformateurs, comme Las Casas, pour remettre de l'ordre en Amérique. Et dans cette alliance, Alors pourquoi le roi faisait cela aussi, Charles Quint? Pas seulement par calcul politique, parce que Charles Quint était aussi l'empereur chrétien, par scrupule de conscience. Il craignait aussi d'aller en enfer, puisqu'il avait expédié en enfer les Indiens, au lieu de les expédier au paradis. Donc là aussi, c'est assez inimaginable. Imagine un chef d'État contemporain qui agisse par scrupule de conscience. On va chercher assez longtemps, et surtout scrupule religieux. L'intérêt du roi d'Espagne, c'était de limiter l'exploitation des Indiens en faisant contrôler les colons par le clergé et d'avoir un triangle. Et chacun, Indien, clergé, colon, envoyant des impôts au roi d'Espagne. Donc c'est un intérêt bien compris, voilà. Donc à la fois matériel et spirituel. C'est pour ça que ce roi Charles Quint, qui était d'une culture extraordinaire, voilà, a écouté longuement Las Casas et d'autres. Il les a invités, donc il a organisé des controverses. Alors je vais vous donner quelques... Deuxième temps, voilà, quelle fut l'action de Las Casas dans cette période où tout était encore possible. Las Casas, c'est quelqu'un que... il a des côtés excessifs parce qu'il était engagé dans des polémiques, donc évidemment, ses adversaires, il les envoyait au diable, mais il a tout essayé. Il faisait feu de tout bois puisqu'il avait un seul souci, voilà, le bien-être matériel et spirituel des Indiens. Ça, personne ne l'a contesté. Ça l'amenait parfois à mentir, mais voilà, comme un avocat, justement, qui ment pour sauver son client. Alors, il a tout essayé en allant de la solution individuelle. En 1515, il essaye de bien traiter ses Indiens, mais il se rend compte que s'il traite bien ses Indiens, son entreprise, elle coule. Comme un patron aujourd'hui qui traite très bien ses ouvriers. On ne peut pas changer tout seul. Ensuite, il a essayé, un peu comme aujourd'hui, les alternatives, l'expérience pilote. Et il a obtenu du roi le droit de conquérir une partie du Venezuela, puisque le roi lui disait « tu prétends que les conquistadors font mal, fais mieux ». Ça a échoué parce que le roi n'a pas voulu donner un sou. Il avait un projet qui était assez intéressant, c'était de faire vivre ensemble dans une maison une famille de colons et une famille d'indiens qui travailleraient côte à côte en labourant la terre. Et tout seul, voilà, les indiens apprendraient la vie des espagnols, puis se convertiraient. Donc une espèce de colonie égalitaire entre, vous voyez que c'est paradoxal, entre colons et indigènes. Or, ça n'a pas marché. Non seulement le roi n'a pas donné d'argent, parce qu'il fait comme de l'argent au départ pour que ça démarre, mais évidemment, les Espagnols ne voulaient pas travailler aux côtés des Indiens, ils voulaient faire travailler les Indiens. Donc ça a échoué assez vite. Il ne s'est pas découragé. C'est vraiment ça qu'on reconnaît, l'homme d'action. En 1540, il obtient du roi Charles Quint une réforme globale du système, qu'on appelait les lois nouvelles. Alors, j'en parle en détail, c'est des centaines de pages, qui fixe dans le détail comment les Espagnols doivent traiter les Indiens. Par exemple, quand il y a des corvées, quel salaire ils doivent quand même leur verser, il ne faut pas les expédier trop loin, les temps de repos, vraiment des conditions de travail. Même chose pour l'évangélisation, il faut qu'il y ait tant de prêtres, qu'ils aient droit à la confession tant de fois, etc. Donc tout un code d'amélioration du système colonial, et pas de suppression. Alors ces lois étaient si novatrices qu'elles ont suscité une révolte générale au Pérou et au Mexique des chefs des colons, donc ou des fils des conquistadors. Ce qui fait que Charles Quint a dû composer. C'est l'intérêt d'État qui l'obligeait parce qu'il n'y avait plus d'argent qui arrivait d'Amérique. Il avait besoin d'argent pour lutter contre les autres princes en Europe. Et ces lois n'ont pas été, on connaît ça, n'ont pas été abrogées, mais sont tombées littéralement en désuétude. On faisait semblant de les appliquer en les contournant. Et jusqu'à la fin, jusque vers 1830, l'Amérique espagnole vit dans une schizophrénie. Donc il y a des lois très précises qui ne sont pas appliquées, qui nourrissent la corruption, les Passe-Droits. Alors, donc de 1520 à 1540-42, Las Casas essaye de réformer le système colonial. Un peu comme Camus en Algérie avait essayé de réformer le système colonial. Il se rend compte que ça n'est pas possible. Donc il franchit un pas vers 1550 lors de la conférence, la controverse de Valladolid. Donc je reprends le... Je vais accélérer pour qu'on ait un temps pour le débat. Donc Valladolid, c'est en Espagne. Le roi Charles Quint veut entendre les deux sons de cloche. Donc il organise une grande conférence universitaire entre Las Casas, qui depuis longtemps est connu comme le défenseur des Indiens, et Sepúlveda, qui était plus ou moins quand même mandaté par les colons. Et c'est le roi donc, qui conserve la décision. Alors, l'argument de Sepúlveda, il est classique, c'est le statu quo. Les Indiens sont des barbares qui ont refusé la religion. Il faut les convertir de force. Bon, certes, il faut éviter de les maltraiter, mais en gros, maintenir le système colonial. Bon, Las Casas, lui, va beaucoup plus loin que dans ses positions intérieures. Et je vais vous résumer l'argumentation de Las Casas. Je pense que c'est le cœur de cette conférence. Alors, violenter les Indiens, c'est-à-dire nuire à leurs droits naturels, la liberté, la propriété, la vie. En gros, on pourrait traduire ne pas respecter les droits de l'homme des Indiens. Alors, sous l'expression droit naturel, c'est exactement la même chose que droit de l'homme. Les droits de l'homme ne sont pas une invention de 1789. Donc violer les Indiens empêche complètement l'évangélisation. On ne peut pas évangéliser un vaincu. C'est ça la réponse radicale de Las Casas. Et c'est le premier qui le dit en 1550. On ne peut pas, on ne pourra pas, on ne peut jamais évangéliser un vaincu. Alors, pourquoi ? Et c'est l'aspect là aussi très surprenant, c'est pour ça qu'il va être béatifié. Parce que c'est contraire voilà, à la liberté religieuse. C'est non évangélique. On ne peut pas se convertir à Jésus de force. Alors il en tire, en gros, deux conséquences politiques. Ça c'est vraiment un point de vue philosophique et religieux. Convertir quelqu'un de force, c'est une fausse conversion. On ne peut pas adhérer au christianisme de force. Ou suite à la force. Il y a deux conséquences. Et c'est très surprenant, ça va beaucoup plus loin que les chrétiens qui sont engagés du côté du FLN pendant la guerre d'Algérie. Les Indiens ont le droit de résister. Ils ont le droit de mener la guerre contre les Espagnols. Et, par exemple, s'ils répondent non au requerimiento, ils ont le droit. C'est le requerimiento qui est injuste. Et Las Casas n'approuve pas, mais explique même le meurtre des missionnaires, puisqu'il connaît certains de ses collègues qui ont été de bonne foi, qui ont été tués par les Indiens. Ils ne l'ont pas mérité, mais les Indiens... Il est compréhensible que les Indiens confondent tous les chrétiens dans le même refus. Autrement dit, les gens à l'époque séparent les membres du clergé entre les loups, c'est-à-dire les hypocrites qui sont dans le clergé pour exploiter, et les vrais bergers, bons et mauvais chrétiens, sont confondus par les Indiens, parce que ce sont les Espagnols qui les oppriment. Donc les Indiens ont le droit de résister. Et évidemment, Las Casas n'approuve pas le meurtre de missionnaires, mais il est compréhensible, puisque les missionnaires sont perçus comme des envahisseurs parmi les autres. Voilà, là aussi, combien de penseurs d'une métropole, des dominants, ont donné ce droit de résistance vraiment aux dominés. Et puis, il va encore plus loin. Certes, nous avons vaincu, mais il faut renoncer à notre victoire. Et Las Casas demande de rendre sa liberté aux Aztèques, aux Incas. Et donc d'évangéliser sans vaincre. Annulons la victoire. Il n'est pas question non plus, Las Casas n'est pas un doux rêveur, il n'est pas question de laisser le champ libre aux Anglais, aux Français, qui eux prendraient la place. Ouais. Donc il faut évangéliser en courant le risque du refus. C'est-à-dire évangéliser au sens actuel du terme, proposer l'évangile. Alors, la différence avec nous et l'Escassa, c'est que l'Escassa est un homme de foi, et de foi du XVIe siècle. Il pensait que les Indiens étaient des hommes purs, bons, meilleurs que les Européens, parce qu'à force de critiquer les Européens, il a un peu à diaboliser les Européens et à sanctifier les Indiens. Donc si on cessait de maltraiter les Indiens en leur laissant le choix, authentiquement, sans pression politique, les Indiens étant bons, jouissant de ce qu'on appelle la religion naturelle, qui les préparait l'Évangile, les Indiens se convertiraient très facilement. Et c'est là où beaucoup d'hommes du clergé n'étaient pas du tout d'accord avec l'Escassa. Donc il y a fondamentalement un optimisme religieux. Il n'y a pas besoin de vaincre pour évangéliser. Non seulement vaincre, ça empêche d'évangéliser, mais il n'y en a pas besoin. Alors, évidemment, Charles Quint écoute, mais ne dit rien. Sur place, il sait très bien que sur place, les colons évidemment, ne lâcheraient pas. Donc si Charles Quint avait dit oui à Las Casas, c'était la sécession, la Rhodésie ou l'Afrique du Sud. S'il avait voulu surmonter la sécession, va-t-il envoyer d'immenses armées pour mater les colons et sauver les Indiens alors qu'il y a le feu en Europe? Il ne pouvait pas dire oui. Mais il est très possible que Charles Quint était d'accord à Las Casas. Mais politiquement, il ne pouvait pas. Ce qui fait que cette conférence de Valladolid, qui a une grande importance aujourd'hui, en fait, qu'elle a été complètement oubliée au XVIIe, XVIIIe, parce qu'en 1572, Philippe II interdit que l'on parle des thèses de Las Casas, donc il passe à la trappe pour trois siècles. Cette conférence nourrit beaucoup la philosophie politique aujourd'hui. Et en annexe, je vous ai mis quelques pistes pour aller plus loin. Ça va du plus abordable au plus abscon, et j'ai mis un philosophe à la fin. Donc, non mais un très bon ouvrage, hein, je cesse de plaisanter, Nestor Capdevila, La controverse entre Las Casas et Sepúlveda. Voilà, si vous voulez lire quelque chose de très précis, c'est l'édition du texte de cette controverse, donc le texte de Sepúlveda, celui de Las Casas, précédé d'un long commentaire. Vous le trouvez, je ne l'ai pas acheté, j'ai lu sur Google Book, vous en avez de larges extraits, par un bon philosophe, bon historien. Souvent, ça va de pair et inversement. Alors, après ces deux premières périodes, lors de la conquête, finalement, on n'a pas trop le choix. On fait la guerre plus que la conversion. Cette période de réflexion qui n'aboutit quasiment à rien concrètement. Il y a la troisième période, celle que je connais le mieux parce que j'ai étudié la fin du 18e, qui est cette longue période de l'âge colonial, en gros 17e, enfin fin 16e, 17e, 18e, qui explique en partie la situation actuelle du catholicisme en Amérique latine, notamment pourquoi les protestants font autant de progrès. Pendant cette période, les Espagnols cessent de discuter entre eux. C'est la période non plus de la mauvaise conscience coloniale, mais de la bonne conscience coloniale. Et la réponse est oui, on peut évangéliser les vaincus à condition de bien les vaincre, de bien les encadrer. Donc de poursuivre, de consolider ce rapport de domination. Et la solution, voilà, c'est l'hypercléricalisme. Alors ne le prenez pas à mal, mais c'est-à-dire que le clergé est chargé littéralement de la police des Indiens et un hypercléricalisme qui tend au racisme ordinaire. Ce qu'on appelle le racisme ordinaire, c'est le racisme qui n'est pas écrit dans des livres, qui n'est pas justifié, mais qui est employé dans les documents que j'ai lus d'archives, les insultes. C'est-à-dire qu'un curé en France au XVIIIe qui est mécontent, il traite ses paroissiens de paysans, païens, mal convertis, tandis que Le curé espagnol au Pérou parle immédiatement de race. C'est une sale race. Il n'y a rien à en tirer. Ils ne connaissent que les coups. Ce ne sont pas des, ce sont pas des Espagnols. Donc ce racisme non théorisé, mais ordinaire. Et c'est une période où, enfin, autant les deux premières sont exaltantes, celle-ci est plus aride. Alors je vais d'abord vous décrire un peu un système, disons, de ségrégation. Comment les Indiens sont mis à part, maintenus dans une situation d'infériorité. Ça rappelle beaucoup de situations en Amérique, en Afrique. Et puis ensuite, comment dans ce contexte où les Indiens sont des mineurs perpétuels, on peut se poser la question de la profondeur de l'évangélisation. Quel genre de chrétien on obtient dans cette situation d'infériorité, issue de la défaite. S'ils sont inférieurs, c'est qu'ils ont été battus. Alors ce sera mes deux temps. Alors, le mot apartheid, vous savez, est à la mode, le Premier ministre l'a employé, c'est un petit peu choqué, mais il s'agit de ça. Donc il y a un développement séparé, c'est-à-dire qu'il y a une volonté du roi Philippe II de séparer les Indiens des Espagnols dans la vie quotidienne et surtout dans la vie religieuse. Donc il y a d'abord le clergé est recruté uniquement chez les Espagnols. Les Espagnols, les laïcs espagnols, vivent en ville. La vie religieuse en ville en Amérique latine, au XVIIe, XVIIIe, c'est comme en Europe. On cherche vainement des différences. C'est-à-dire, le clergé n'a pas beaucoup de pouvoir sur les laïcs. Par contre, les Indiens sont obligés à résider donc dans des villages où les Espagnols n'ont pas le droit de résider, sauf le curé et sa famille. Et donc vous avez la majorité de la population évidemment est rurale. La situation suivante, qui est celle que je vous avais montrée au début avec l'évêque Campagnone. Et on va passer à l'image suivante. Bon, ça, c'est là c'est Las Casas, j'avais oublié de vous le passer. C'est un tableau de la fin du XVIe qui émane de l'ordre des Dominicains. On voit Las Casas au milieu de sa carrière, vers 1545. Dans cette position d'avocat, justement, écrivant une lettre au roi pour défendre les Indiens. Donc, l'image suivante. Alors, une autre image extraite de ce rapport de l'évêque Campagnon dans le nord du Pérou, à la fin du XVIIIe. Dans ces paroisses, le curé était effectivement un théocrate. Il y avait une théocratie locale. Et la pastorale, c'est-à-dire la façon de diriger la vie religieuse, dans le sens de l'époque, était très différente de l'Europe. Vous avez ici un curé qui a une baguette, la férule, qui normalement est employée contre les enfants. Donc en Europe, on frappe les enfants à la baguette, ils marchent à la baguette, pas les adultes. Cette scène est une scène du catéchisme hebdomadaire qu'on appelle la doctrina. Donc vous avez des Indiens qui ont les mains comme cela et qui sont en train de réciter en chantant le credo, le Notre Père, les devoirs vis-à-vis de l'Église. Et le curé donc prend à frapper celui qui a oublié ou qui ne répond pas. En Europe, le catéchisme était obligatoire jusqu'à la communion, était facultatif ensuite pour la confirmation. Les Indiens sont astreints à un catéchisme perpétuel. C'est-à-dire que le catéchisme est obligatoire pour les adultes. Et les curés disent toujours la même chose. Ça fait 20 ans que je suis là, ils ne le savent toujours pas. On recommence. Donc c'est juste pour vous montrer que même dans la vie religieuse, il y a une infantilisation. Et très souvent, les curés décrivent les Indiens sous des termes d'enfants rebelles. Et ils évoquent même plus à la fin du XVIIIe la possibilité qu'un jour ou l'autre, à la génération suivante, ça s'améliore. Alors, L'image suivante. Bon, cette image est un petit peu bizarre, donc je ne voulais pas la passer immédiatement. Je vous ai dit que l'assistance au catéchisme était obligatoire chaque semaine. Là, vous avez le personnage en noir, au fond, c'est un curé qui tient un registre, c'est le registre des présences. Il est flanqué de deux officiers indigènes, donc des élus du village, en gros c'est les maires. Et puis à l'exécuteur des basses œuvres, donc, qui est en train d'infliger des coups de fouet, donc en train de fouetter un des Indiens, donc qui n'a pas assisté au catéchisme. Alors c'est l'évêque qui publie cette image, donc l'évêque Campagnone, qui est un saint homme d'église, approuve cela, parce que ça veut dire que ce curé est honnête. Il donne une douzaine de coups de fouet, ce qui est la punition pour des enfants, donc ça n'a rien de cruel. Faites attention à l'époque. Les enfants qui manquaient de respect à un maître étaient fouettés de la même façon. Alors qu'un curé pourri ne donnerait pas de coups de fouet, mais exigerait un pot de vin. Donc c'est contraire à un curé actif qui va chercher ses ouailles au fin fond de la montagne, qui vérifie que tout le monde est là et qui les traite en bon père. Donc faites bien attention, c'est pas une image sadique, malsaine. Dans la pédagogie du 18e, on fouettait régulièrement les enfants, et c'est l'idée qu'il faut les corriger. Donc là aussi, vous voyez, il y a hypercléricalisme et racisme ordinaire, même inconscient. Infantilisation. On retrouve les discours colonialistes, justement, les peuples éternellement enfants. Alors ça, c'est la première chose. Voilà, les Indiens sont mis à part pour les protéger des colons. Alors c'est sûr qu'ils vont travailler dans les mines, ils ne font pas que du catéchisme. Mais placés sous la protection du clergé. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des Indiens en Amérique. Je veux dire, ce système a quand même sauvé les Indiens. Entre les coups de fouet du catéchisme et puis les coups de fouet à la mine, il y a quand même une différence. Je finis sur des interrogations des contemporains renouvelées par les historiens sur quel type de chrétien on obtient dans ces conditions. Parce que c'est sûr qu'à la fin du 18e, dans l'Amérique espagnole, tout le monde est officiellement chrétien, espagnol comme indien. Le baptême est généralisé, il y a des registres de baptême qu'on peut étudier. L'évêque Campagnone fait la liste de la population de son diocèse à l'aide de ces registres. On est marié, on meurt, enfin baptême, mariage, sépulture. Il y a un encadrement, il y a un prêtre pour 200 habitants, y compris à la campagne. C'est même une chrétienté plus solide, voilà, où les gens sont plus surveillés qu'en Europe. Alors, il y a un livre en 1971 que j'ai mis dans la chronologie de Nathan Wachtel, qui a fait date, qui s'appelle « La vision des vaincus ». Alors Nathan Wachtel a étudié les textes administratifs des Espagnols qui pourchassaient les sorciers, en gros. Donc les gens qui refusaient de devenir chrétiens et continuaient à pratiquer les religions païennes. Et puis il a étudié aussi, c'est plus novateur, le folklore actuel au Pérou, notamment ces pièces de théâtre où on rejoue sans cesse la conquête. Il a étudié aussi les rites religieux, c'est encore aujourd'hui au Pérou quand on vit d'une bière à plusieurs, le premier verse d'un peu de bière par terre en s'adressant à la Pachamama, donc la déesse mère. C'est ce qu'on appelle soit des résistances du paganisme, des surveillances du paganisme, soit le syncrétisme, c'est-à-dire le mélange de deux religions. Les gens conservent une part de paganisme et une part de christianisme. Et donc Nathan Wachtel, dans son livre qui est passionnant, il montre que finalement on n'est jamais vaincu. On ne peut pas évangéliser des vaincus, c'est qu'on ne peut pas vaincre moralement quelqu'un, que même les faibles résistent. Alors notamment, une des formes que les Indiens ont trouvé de résister, c'est de réécrire leur histoire. Ils ont dit par exemple que l'empereur aztèque ou l'empereur inca était au fond déjà un bon empereur. Et il suffisait que le christianisme arrive gentiment pour qu'ils deviennent chrétiens. Et donc, on n'a pas besoin des Espagnols. Bon, je ne veux pas être trop long là-dessus, je voulais juste développer deux exemples. La Vierge de Guadalupe au Mexique, et puis l'exemple au Pérou de Tupac Amaru. La Vierge de Guadalupe, vous savez que c'est la patronne du Mexique actuel. Un embouteillage à Mexico, les gens ont l'image de la Vierge de Guadalupe. L'origine, c'est en 1524, près de Mexico, à Tepeyac. Il y a un Indien qui était déjà baptisé, qui a une apparition de la Vierge. Apparition miraculeuse avec une image de la Vierge qui s'imprime sur un manteau. Alors le problème, c'est que cette apparition a lieu sur le lieu d'un sanctuaire d'avant la conquête, puisqu'on est juste quelques années après la conquête, à une déesse mère, Tonantzin. Donc le clergé... Alors aussitôt, les Indiens affluent à un pèlerinage spontané. Vous savez qu'en général, les croyants n'attendent pas l'autorisation du clergé pour déclencher un pèlerinage. Et l'évêque de Mexico hésite pendant 30 ans sur l'attitude à tenir. Est-ce que les Indiens ne sont pas en train de nous rouler ? Donc ils viennent à Tepeyac, qu'on appelle ensuite Guadalupe, pour adorer leur déesse en faisant semblant d'adorer la Vierge. Ou est-ce que l'apparition est réelle ? Et est-ce que ce n'est pas Dieu qui a voulu que la Vierge apparaisse là où apparaissait Tonantzin ? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui veut que le christianisme succède aux religions antérieures ? Donc il n'y a pas besoin de les effacer. En 1551, l'évêque de Mexico répond pour la deuxième alternative. Les apparitions sont divines. Le pèlerinage est autorisé, on construit une église. Et ça devient le centre de la nation mexicaine jusqu'à aujourd'hui. C'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, le Mexique est plus catholique que le Pérou. Alors ça n'empêche pas que j'ai mis dans la chronologie aussi, dans la bibliographie, un livre de Jean-Pierre Duviols. Pratiquement en même temps, au Pérou, mais ça se passait aussi au Mexique, ce même clergé pourchassait jusqu'à la mort ceux qui ouvertement refusaient le christianisme, c'est-à-dire pratiquaient des cultes avec les noms des anciens dieux. Donc autant on acceptait la succession, que le christianisme hérite du paganisme, autant on n'acceptait pas la permanence. Alors le deuxième épisode, deuxième exemple, je vais finir là-dessus, c'est au Pérou, tout à la fin, donc en 1780, vous avez un descendant des derniers empereurs incas. Ce descendant s'appelle Tupac Amaru. En fait, il y en avait des dizaines de descendants de l'empereur, qui se révolte. Alors, ce n'est pas très original, une révolte coloniale. Donc, c'est une guerre d'indépendance. Mais ce qui est original, c'est son programme. Il veut rétablir un empire inca, donc sur toute la zone que je vous ai indiquée sur la carte. Mais cet empire inca serait chrétien. Le symbole, ce que Tupac Amaru dessine sur ses drapeaux, c'est un soleil avec une croix au milieu. Ça veut dire que, vous savez que le soleil était la divinité principale de l'Empire Inca. C'est l'idée que l'Empire Inca a préparé le christianisme, comme l'Empire romain a préparé le christianisme. Dans cet empire, le clergé serait fourni par les Espagnols, il ne prétend pas chasser les colons espagnols, et les Indiens. Donc tout simplement un empire comparable à celui un empire européen. Alors ça tourne très mal, puisque vu le ressentiment des Indiens, la révolte de Tupac Amaru tourne à l'extermination des Espagnols, laïcs et religieux compris, donc c'est ce qu'avait prévu Las Casas. Et qu'évidemment cette guerre de race justifie une répression, et Tupac Amaru finit écartelé, donc bouilli, enfin tout ce que vous voulez, sur la place du Cusco. Alors oui, j'avais oublié un dernier point. Il y a quelques endroits en Amérique où la situation s'est déroulée d'une autre façon. Des endroits où la conquête s'est révélée impossible. À ce moment-là, le roi a laissé faire l'évangélisation pacifique. Et on en parlera davantage sur une autre conférence qui traitera de la fin de cette histoire, la suppression de l'ordre des jésuites à la fin du XVIIIe. Notamment, j'ai mis sur la carte le Paraguay. C'était une zone où les Indiens ont battu à de très nombreuses reprises de grandes armées espagnoles. Donc ils n'ont pas été vaincus. Donc sans plaisanter, par désespoir, on a laissé faire les jésuites. C'est à peu près ça. Et les jésuites, donc, les ont convertis, ont établi, alors ça a été décrit comme des théocraties, c'est faux. Les jésuites sont devenus les conseillers des monarques indiens. Ils sont des états indiens, donc, patronnés par les jésuites. Suite à la suppression de l'ordre des jésuites, les colons portugais du Brésil ont envahi ces états, ont esclavagé les indiens. Il ne reste pas grand-chose de cette œuvre, sauf la langue guarani, qui est une des trois grandes langues indigènes en Amérique. Il y a le nahuatl au Mexique, le quechua au Pérou, le guarani. Et il y a plus des dizaines de langues. Il y a ces trois grandes langues qui ont été les langues utilisées par le clergé, donc pour évangéliser les Indiens. Bon, il est temps de conclure parce que j'ai dépassé. Oui, même votre le temps, excusez-moi. C'est qu'il y avait l'introduction. C'est de l'histoire, parce qu'en philosophie, on pourrait se dire, peut-on évangéliser les vaincus dans l'absolu ? En histoire, comment les gens de l'époque se sont posé la question ? Et je ne veux pas que vous interprétez mal mon propos, l'histoire ne remplace pas la philosophie. Mais l'histoire résonne étrangement avec le... avec le présent, et peut aider à raisonner. Enfin, si on peut retenir quand même que les hommes d'église du XVIe n'étaient pas des niais politiques, ni des autruches, mais qu'ils ont essayé, alors pas de faire ce qu'ils peuvent, d'y aller à fond, puis qu'ils se sont conformés voilà, à un ordre injuste, qui a laissé des traces. Alors, je voulais finir en vous indiquant la chronologie. Je vous ai mis quelque chose d'un peu surprenant, c'est la constitution actuelle de la Bolivie, qui date de 2009. Parce que les Indiens sont peu à peu libérés au cours du XXe siècle. Et c'est au début du XXIe siècle, les populations indiennes au Mexique et au Pérou sont devenues vraiment citoyennes. Comme la Bolivie est un pays majoritairement indien, le président et le parlement sont maintenant à majorité indienne. Donc ils ont adopté une constitution qui est placée sous l'invocation de la Pachamama, c'est-à-dire la déesse mère de la religion à l'époque Inca, et de la grâce de Dieu. Et donc cette formule extraordinaire, ça rappelle un peu Napoléon. En s'appuyant sur la force de notre terre-mère et par la grâce de Dieu, nous refondons la Bolivie. Voilà, je vous remercie et je m'excuse d'avoir développé. Je vous laisse conclure finalement, parce que justement il n'y a pas de conclusion du type philosophique. On n'a pas pu évangéliser aussi bien qu'on l'a voulu du fait de la conquête. Et donc jusqu'à il y a très peu de temps, au Pérou, il n'y avait pas de prêtres d'origine indienne. Au Mexique, ça s'est fait plus facilement. Parce que c'est l'héritage de ça.